Bonsoir. Donc, OK, on continue notre étude dans l'Épître aux Hébreux. On est dans le chapitre 12. On avait dit que le chapitre 11, 12, 13, qui sont la conclusion de l'Épître, après avoir dit toutes les choses dont Christ est supérieur à toutes les choses, tous les types de l'Ancien Testament. Mais maintenant, dans les chapitres 11, on voit les héros de la foi, des gens qui c'était des gens comme nous. Qui ont vécu leur vie pour le Seigneur. Puis ici, ben, le Seigneur donne son appréciation de l'évaluation de leur vie. Puis on avait dit que le chapitre 12, ben, c'est l'espérance. Donc, c'est des choses en vue de l'espérance, à cause de l'espérance, de la persévérance, à cause de notre espérance qu'on a. Puis le chapitre 13, ben, c'est l'amour. C'est l'amour qui est le thème de ce qu'on va vivre pour l'éternité. On va vivre dans un amour qui va pousser à la dévotion. Ça fait qu'on va lire. On avait fait un bon bout dans le chapitre 12. On était rendu au verset 23. Mais pour le contexte, peut-être on va lire à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Donc, dans Hébreux 12, au verset 18, il dit: « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Seigneur, va bénir la lecture de sa parole. On va demander son aide. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour tous ceux qui se sont connectés ce soir pour cette étude. On te remercie pour ta parole. On te demande, Seigneur, de nous diriger par ton esprit afin qu'on puisse ressortir de ta parole les choses qu'on a besoin. Ta parole, notre Dieu, est notre nourriture, parce que tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, Seigneur, on sait que ta parole est précieuse, ta parole est grande, ta parole est puissante. Elle peut transformer nos vies, elle peut nous rendre toujours plus comme tu veux qu'on soit, comme ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On te rend grâce pour tout cela. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. Je te demande de bénir chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ça, on était en train de parler dans les versets 18. Il parlait c'est certain, il parlait du temps où la loi, c'était l'alliance, qui est la première alliance, c'était la loi avait été donnée sur le mont Sinaï, puis la montagne était en feu, toute tremblante, puis la voix comme une voix de tonnerre. Au point que les gens avaient peur, puis même, comme il dit ici, même Moïse était épouvanté. Puis le peuple avait dit à Dieu, il avait dit, ben, avait dit à Moïse que Dieu ne nous parle pas, mais toi, dis-nous ce que Dieu a dit. Donc, il était porté à s'éloigner, parce que si quelqu'un s'approchait de la montagne, il serait puni de mort. Donc, c'était une alliance, mais il n'y avait pas la proximité. Puis on avait parlé de ça, comment nous, on a une proximité. Nous, on peut appeler le Seigneur notre Père. Dieu, c'est notre Père. On est invité à s'approcher. Au lieu de. Eux, il fallait qu'ils devaient se prendre un recul. Mais nous, ici, il nous dit, au verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, on avait parlé de la montagne de Sion. Ben, c'était la cité de David, était appelée Sion. Puis, c'est vraiment la cité du roi vainqueur, comme on avait dit la dernière fois. Donc, c'est dans la victoire on va être dans la Sion céleste. Ça va être une ville qui va avoir la victoire parce que le Seigneur Jésus va venir comme roi, installer son règne sur la terre. Puis, la Jérusalem céleste, ben, ça va être la ville du grand roi. Ça va être aussi l'habitation de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est sûr que ici, on voit tous les privilèges qu'on a, nous. C'est ça qui nous parle. Verset 23, il dit qu'on s'est approché. Verset 22, il dit, mais vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et au verset 23, il nous dit de l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés, ici, c'est question de l'Église universelle. Ce n'est pas une Église avec des frontières humaines. C'est vraiment tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Quand on parle de l'Église universelle, c'est tous ceux qui auront reçu Jésus-Christ comme leur sauveur depuis le début, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est l'Église universelle qu'on appelle. De tous les pays, de toute race. Cette Église-là ne s'est jamais réunie dans un endroit, sauf quand le Seigneur va venir la prendre avec lui. Puis là, les morts en Christ, ceux qui sont morts, vont être ressuscités. Puis nous, les vivants qui serons enlevés, on va être transformés. On va aller à la rencontre du Seigneur. Puis là, dans ce temps-là, cette Église-là universelle va être unie à travers tous ceux qui ont été sauvés à travers les temps, vont être unis avec le Seigneur Jésus-Christ dans un endroit. Il va nous introduire dans la maison du Père. Donc ici, quand il est question de l'Église universelle, ben, l'Église universelle, c'est la récolte vraiment du premier-né d'entre les morts. Des fois, il y a des gens qui veulent nous dire que le Seigneur Jésus a été créé, qui n'est pas Dieu éternel, le Fils de Dieu de toute éternité, mais ils vont nous parler du premier-né de toute la création. Donc, ils disent que c'est parce qu'il a été créé, mais ce n'est pas parce qu'il a été créé. Quand on parle de premier-né, ce n'est pas l'origine, mais c'est vraiment la position. Comme dans la Bible, quand la Bible nous parle de premier-né, elle nous parle d'une position. Parce que la plupart du temps, le premier-né, dans la position, n'était pas nécessairement celui qui était né en premier. Celui qui était né en premier n'était pas nécessairement dans la position du premier-né. Le premier-né, c'était celui qui détenait la bénédiction pour la transférer à toute la famille. Puis, dans la nouvelle création, bien, le premier-né de la création, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le premier-né. Mais nous, quand il nous parle du Seigneur Jésus, comme prémisse, puis dans la fête des prémices dans l'Ancien Testament, on voyait ça, la fête des prémices, la première gerbe qui sortait de terre, c'est un type de résurrection parce qu'un grain de blé avait été mis en terre, puis ce grain de blé-là était mort. Mais il avait revenu à la vie, puis porté du fruit. Comme une dévotion à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous autres. Mais ça, c'est vraiment merveilleux, là, ici. C'est pour ça comme il dit, c'était dans Romains 12, 1. Non? Mais juste avant de finir le chapitre 12, on va aller ensemble dans le chapitre Ésaïe, chapitre 33. Ésaïe, chapitre 33. Puis il y a un verset là, qui nous décrit ça un peu, là. Mais des fois, on peut penser qu'il nous parle de l'étang de feu, mais c'est pas c'est notre Dieu est un feu dévorant. Alors, dans le chapitre 33 d'Ésaïe, au verset 14, il dit, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Puis, on pourrait dire, ben, il n'y a personne, parce qu'on est tous des pécheurs. On est tous comme il dit ici, des impies. Mais à cause du fait qu'on a été rachetés par le sang précieux de Christ, il nous dit ici, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Donc ici, on voit, c'est ceux qui sont sauvés qui vont pouvoir demeurer auprès d'un feu dévorant. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'aura plus de péché. C'est ça qu'il va faire. Parce que de voir le Seigneur maintenant dans notre péché, ce serait terrible. Mais comme Jean, qui l'a vu, qui était un bien-aimé, sur l'île de Patmos, quand il a vu le Seigneur, il a tombé à ses pieds. Puis Daniel aussi, parce qu'il est encore dans sa chair. Mais quand on va être, nous, on va arriver, on va le voir face à face. Puis on ne sera pas consumé, parce qu'il n'y aura rien consumé, parce qu'on va être parfait. Il n'y aura plus de péché à consumer. Là, on serait consumé à cause de notre péché, mais dans ce temps-là, on n'aura plus de péché. Puis on va être capable de vivre dans la lumière inaccessible. On va être capable de vivre dans le resplendissement de la magnificence puis de la toute puissance de Dieu. Seigneur Jésus, quand il était sur la montagne de la Transfiguration, ben, il n'était pas capable de le regarder. Son vêtement est devenu plus blanc que le soleil. Tu sais, en plein midi, on n'est pas capable de regarder le soleil. Mais dans ce temps-là, on va être capable parce qu'on va être transformé, parce qu'on n'aura plus de péché. Puis c'est ça qui est vraiment merveilleux. C'est que, ayant cette espérance-là, ben, il faut vivre de la façon qui démontre qu'on apprécie, qu'on connaît cette espérance-là. Puis plus on va se nourrir de notre espérance, ben, plus on va pouvoir être dévoué pour le Seigneur Jésus. Maintenant, on arrive à l'amour dans le chapitre 13. L'amour, là, c'est le thème de l'éternité. L'amour qui pousse au dévouement. Il nous dit dans le chapitre 13, verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Puis, là, dans un sens, il décrit toutes sortes de circonstances dans lesquelles l'amour doit se manifester. Il parle de l'amour fraternel, il parle de l'hospitalité, il parle des prisonniers. Il parle du mariage, puis il parle des conducteurs. Donc, c'est tous des aspects dans lesquels l'amour de Dieu doit se manifester. L'amour qui a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit doit se manifester. Donc, c'est important de comprendre ça. Quand on vit dans l'amour de Dieu, puis dans l'éternité, ça va être comme ça. Donc, comme on dit, le chapitre 13 nous introduit dans ce qui sera le thème dans la gloire, l'amour exprimé dans le dévouement. Parce que c'est facile de dire je t'aime. Hein? Il y a des gens qui disent ça facilement, je t'aime, mais c'est pas démontré dans leurs actions. Mais la Bible, quand la Bible utilise le mot aimer, est toujours accompagnée de donner. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. Christ a aimé son Église et s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même pour elle. C'est toujours, quand Dieu parle d'amour, il parle toujours aussi de l'action que l'amour pousse à faire. Puis c'est le dévouement. Puis c'est quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu puis qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Parce que s'il aime Dieu, il va aimer son frère que Dieu aime. Puis c'est pour ça que de dire qu'on aime, puis si l'action ne suit pas, ben c'est pas de la réalité. C'est facile de dire je t'aime, mais quand on aime, on donne, on est prêt à se donner pour nos frères. Si on aime nos frères, nos sœurs, on va se donner pour les autres. Si on aime notre femme, on va se donner nous autres même pour elle. On va se livrer pour elle. Puis de la même façon, la femme répond plus facilement à l'amour que l'homme. Les hommes, on est portés à être égoïstes. Mais une femme, elle a comme ce sentiment-là inné d'aimer. La femme, elle va aimer ses enfants, elle va aimer son mari. Mais le mari, on dirait que c'est dur pour lui à cause de notre égoïsme. Puis il faut faire attention. Parce qu'il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé son Église, puis s'est livré lui-même pour elle. Il faut se livrer vraiment pour nos femmes. C'est la façon qu'on doit s'aimer. On va le voir dans le mariage. Donc, l'amour, il faut absolument. Puis quand on regarde 1 Jean, là, Jean, il est catégorique là-dessus. Il dit que il faut être né de Dieu pour aimer. Pour aimer comme Dieu, il faut être né de Dieu. Ben oui, parce que c'est de Dieu qu'on a appris à aimer. C'est lui qui nous a aimés le premier, puis nous, on l'a aimé ensuite. On a répondu à son amour. Donc, Jean est catégorique. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aimer comme Dieu aime. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Quand on croit au Seigneur Jésus, qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est là qu'on est capable d'aimer parce qu'on a connu l'amour de Dieu pour nous. Puis là, on répond à cet amour-là. C'est important. Puis l'amour qu'on a appris du Seigneur, ben, le Seigneur l'a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis le Seigneur, il ne l'a pas juste dit, mais il l'a fait. Il s'est donné. Puis on pense à Pierre, vous savez, il avait averti Pierre. Pierre, il a dit, Seigneur, même si je devrais mourir, je ne te renierai jamais. Mais ça, c'était dans la chair. Mais quand il l'a renié 3 fois. Puis c'est remarquable qu'après qu'il l'a renié, le Seigneur l'a regardé. Le Seigneur savait qu'il l'avait renié. Le Seigneur l'a regardé, puis d'autres, on pourrait penser, quand le Seigneur l'a regardé, c'était avec des yeux malins, là, on va dire, hein, je te l'avais dit. Non, c'était avec des yeux d'amour. Pierre, regarde, je savais que tu allais me renier, mais moi, je ne te renie pas. Moi, je t'aime, Pierre. Puis il a fait en sorte, le Seigneur, il a fait en sorte de rencontrer Pierre. Puis il a dit, quand il est ressuscité, allez l'annoncer à Pierre, puis aux frères. Puis il a rencontré Pierre personnellement. Puis il a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Là, Pierre, il avait de la misère, il n'était pas capable de répondre aussi fort que le Seigneur lui demandait. Il a demandé 3 fois. Mais ce n'était pas pour le détruire, mais c'était pour. Et puis il a dit, quand tu seras converti, ben, va vers tes frères, paie mes brebis, prends-en soin, ramène-les. Le Seigneur, il a même donné une tâche. Il a confié un ministère. Mais il a dit, Pierre, si tu vas paître mes brebis, là, mes agneaux, là, ben, il va falloir que tu m'aimes. Parce que c'est pour par amour pour moi que tu vas pouvoir faire ce travail-là. Parce que si c'est par amour pour les brebis, des fois, les brebis ne sont pas toujours faciles à aimer. Mais si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer comme le Seigneur. Donc, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Imaginez-vous que ça va être dans le ciel. Quand on va vivre dans cet amour-là, il n'y aura plus de péché. On va être capable d'aimer sans égoïsme. On va être capable de se livrer, se dévouer pour le Seigneur, puis pour les autres. Imaginez-vous de vivre dans une société comme ça. Aujourd'hui, on vit dans une société, la parole de Dieu nous dit, dans les derniers temps, il va y avoir dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Puis en anglais, ils disent amoureux d'eux-mêmes. Puis c'est ça, chacun réclame. Chacun réclame ses droits, chacun réclame, moi, ah, c'est moi, je mérite ça. Mais ce ne sera pas comme ça au ciel. Ça va être, on va tout donner pour les autres. Imaginez-vous si on donne tout. Puis un mari qui aime sa femme, qui se livre vraiment pour elle, ben, ça va être facile pour sa femme de se soumettre à lui, puis, parce qu'elle sait qu'il va prendre soin d'elle. À se confier entièrement, puis c'est la façon que nous autres, on agit avec le Seigneur. Parce qu'on sait que le Seigneur, il nous aime. Il va prendre soin de nous autres. On se soumet entièrement à lui. Des fois, ça ne fait pas toujours notre affaire. Il y a des choses que nous, on agirait d'une façon différente. mais par amour pour le Seigneur, parce qu'on sait que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Puis quand on y obéit, on sait que ça va toujours être, on va toujours être bénéficiaire de l'obéissance. Quand on désobéit, on se ramasse dans le trouble. Puis quand on obéit, on est dans l'obéissance. Ça va vraiment merveilleux. Mais imaginez-vous au ciel, tous seront centrés sur le bien des autres. Là, on est centré sur nous autres-mêmes, mais dans ce temps-là, on va être centré sur le bien des autres. On va penser aux autres. Puis, ça va être vraiment merveilleux de vivre dans cette atmosphère-là. De vivre là, où tu n'auras pas besoin de faire attention pour barrer ta porte. Tu n'auras pas besoin pour pas te faire voler. Tu n'auras pas besoin de faire attention pour pas te faire attaquer. Pour pas, ça n'existera plus. Ça va être vraiment, les gens, ils vont te faire du bien. Tout le monde va te faire du bien. Puis d'autres, on va faire du bien aux autres aussi. Puis, c'est ça que la société moderne n'a pas compris. C'est pour ça qu'il essaie de mettre des lois donner les droits aux autres, mais ça fait juste de l'animosité. On voit quand il donne des privilèges à des minorités, ça fait juste enflammer la rivalité parce que les autres ne sont pas contents parce qu'il leur donne des privilèges à eux autres. Puis, fait que ça ne marche pas. Mais le Seigneur a dit, puis si la société dans laquelle on vit pouvait comprendre ça, mais on va le comprendre, tout le monde le comprend déjà, mais on va le comprendre dans le ciel, tout le monde va le comprendre dans le ciel. Le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu sais, ce principe-là, là, de vivre dans le bonheur de donner, de se donner nous-mêmes pour les autres. Fait que tout, on va être centré sur le bien des autres, puis on va être dévoué au service des autres. On va se donner pour le service des autres. Ben, mais maintenant, ben, c'est le contraire. Hein. Il dit, sache que dans les derniers jours, dans 2 Timothée 3, 1, 2, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Puis les psychologues, les autres, ils te rendent encore plus égoïste. Fait que, au lieu de régler le problème, ils l'accentuent, ils l'augmentent. Donc, étant gagné par son amour, là, on répond par l'amour. Premièrement, ben, c'est l'amour pour le Seigneur. Ben oui, parce que c'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais ben, lui, il nous a aimés. Lui, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous autres. Mais après ça, c'est l'amour pour les siens. Donc, premièrement, c'est l'amour pour le Seigneur. Ensuite de ça, c'est l'amour pour les siens, ceux qui appartiennent au Seigneur. Puis Jean, il en parle beaucoup de ça, de l'amour pour les autres, pour les frères dans la foi, frères et sœurs. Mais ensuite de ça, c'est l'amour pour le monde. Puis pourquoi qu'on veut témoigner au monde? C'est parce qu'on les aime. On n'aime pas le monde, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, c'est le système du monde qui est en rébellion contre Dieu. On n'aime pas le système du monde qui est dirigé par le prince de la puissance de l'air, qui est en rébellion contre Dieu. Mais on aime les gens dans le monde. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde. Il n'aime pas le système du monde, mais il aime les gens qui sont dans le monde, qui sont perdus. Puis c'est la même chose, nous autres aussi. On va aimer de la façon que Dieu aime le monde. C'est pour ça que si les gens nous maltraitent, ben, on leur fait du bien. Comme le Seigneur, il était maltraité, mais lui, il fait du bien. Puis l'amour, là, c'est le motif le plus puissant. Puis il n'y a pas de motif plus puissant que l'amour. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais dans la Gaspésie. J'étais allé avec mon oncle du côté sud de la Gaspésie. Puis là, moi, j'avais hâte de revenir parce que j'avais hâte de la voir. Puis là, mon oncle, lui, il s'en revenait le lendemain matin. Il couchait là-bas. Ben, j'ai dit, moi, je ne couche pas ici, je m'en vais. Je suis parti sur le pouce. Puis, mais là, il dit, ben, ça ne fait pas de sens, là. Il dit, tu vois, il y a pas de voiture, ça ne voyage pas dans le parc. Il y a les montagnes, là, traverser le parc, il y a 144 km pour traverser le parc. Il dit, il n'y a personne qui voit, ça ne voyage pas la nuit dans le parc. Il dit, tu vas, ah, c'est pas grave. Moi, je m'en vais. Puis, j'ai parti, puis j'ai descendu à New Richmond, ça a été pas pire. Mais quand j'ai pris le parc, là, j'ai marché. J'ai marché toute la nuit. Mais j'arrivais avant lui, par exemple. Mais c'est pour ça que j'avais hâte de la voir. Je voulais m'en venir pour la voir. Puis, c'était fou dans un sens, mais vous savez, quand on aime, il n'y a rien de trop beau. C'est comme quelqu'un, à un moment donné, c'était dans le temps des télégrammes, là, il n'y avait pas la communication, il y avait des télégrammes, puis sa femme était allée en Europe, puis elle avait vu une belle peinture. Puis elle a télégraphié à son mari pour voir si elle devait l'acheter. Puis lui, il a dit non, le prix est trop cher. Mais il n'y avait pas de virgule dans le télégramme. Fait que lui, elle a lu, il n'y a pas de prix trop cher. En anglais, c'est no price too high. Il n'y a pas de prix trop cher. Fait qu'elle l'a acheté. Mais lui, il avait dit non, le prix est trop cher. Mais elle a lu, non, il n'y a pas de prix trop cher. C'est qu'elle l'a acheté. Mais c'est un peu comme ça, l'amour. Ça nous pousse à faire au-delà de ce que. Il n'y a personne qui pourrait avoir la dévotion. C'est pour ça que le Seigneur, il cherche notre amour. C'est pour ça qu'il veut qu'on vive par amour pour lui. Pas par la crainte. La loi, ça n'a pas marché. La crainte de la punition, ça n'a pas marché. Mais l'amour, ça marche. Puis c'est ça que le Seigneur cherche pour nous. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro. Puis moi, je m'arrête, puis je vous laisse dans un petit peu. Je vais vous laisser la possibilité de prendre votre micro. Puis si vous avez des commentaires ou des questions, bien, on va passer un temps jusqu'à 8 heures. Si vous avez un problème, des fois, si vous attendez un peu, des fois, ça ne marche pas. Là, vous avez juste à me faire signe, puis je vais vous redonner la possibilité de prendre votre micro.
Oui, bon, merci Gérald encore pour cette étude que j'apprécie beaucoup. Vous avez mentionné lors de la première résurrection, nous qui serons sauvés avec le corps, l'esprit et l'âme en présence du Seigneur. Puis souvent, j'ai de la difficulté à différencier âme et esprit, parce qu'on sait que l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Puis on sait aussi que dans Hébreux, ça dit que la parole de Dieu est tranchante jusqu'à partager âme et esprit. Et moi, j'ai de la difficulté des fois à partager âme et esprit. En fait, peut-être vous pouvez m'éclairer là-dessus.
C'est normal parce que l'âme et l'esprit, c'est les parties immatérielles du corps. On ne les voit pas, mais on les connaît, mais on ne les voit pas. Puis c'est difficile de les différencier dans un sens. Mais moi, je trouve que ce qui l'âme, c'est le moi. C'est ma personnalité que Dieu a créée. Mais l'esprit, c'est la partie de nous qui peut rentrer en contact avec Dieu parce que Dieu est esprit. Mais moi, je trouve une bonne façon de différencier entre l'âme et l'esprit. Quand on était sauvés, notre âme était là, était active, mais notre esprit, on était mort spirituellement. On était mort au niveau de l'esprit. On n'entrait pas en contact avec Dieu. Mais du moment qu'on était sauvés, on était ressuscités ensemble, comme il est dit dans Éphésiens 2. On est ressuscités ensemble, on est assis dans les lieux célestes en Christ. Il nous a ressuscités au niveau de l'esprit, pour qu'on rentre en contact avec Dieu. Mais une façon, moi, que je trouve de facile pour différencier, aider à différencier entre les deux, c'est que si on dit que quelqu'un est en bonne santé physique, on sait qu'on parle du corps, là, c'est de la maladie, mais si on dit que quelqu'un est en bonne santé spirituelle, ben là, on sait que c'est sa relation avec Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé, il ne peut pas être en santé spirituellement parce qu'il est mort spirituellement. Mais si on dit que quelqu'un, et c'est sa santé mentale, on dit qu'il est en bonne santé, sa santé mentale est bonne, là, on sait de quoi on parle. On ne parle pas de l'esprit. Parce qu'on parle le mental, c'est moi, c'est ma personne, c'est ma personnalité que Dieu a créée. Puis cette personnalité-là, elle n'est pas pécheresse. Ce n'est pas la personnalité qui est pécheresse, mais c'est le péché qui est dans notre chair. Parce que Dieu nous a donné une personnalité, puis même on voit les écrivains, ceux qui ont écrit dans la Bible, chaque mot est inspiré de Dieu, mais Dieu a respecté la personnalité des écrivains. On reconnaît leur style. Fait que, je ne sais pas si ça t'aide un peu, David, là, de
Oui.
penser à
Oui, merci.
la santé spirituelle, c'est notre relation avec Dieu. La santé mentale, c'est moi, ça fonctionne bien dans ma tête, qu'on peut dire. Puis la santé physique, ben, c'est dans mon corps.
OK. Bien, merci, Gérald. J'apprécie beaucoup.
Il y a quelqu'un qui nous avait déjà dit que notre âme, c'est ce qui nous anime.
Exactement. Exactement. C'est ce qui nous anime. Parce que les animaux, ont une âme aussi, dans un sens, mais ils n'ont pas l'esprit. Ils
D'accord.
sont animés, leur corps est animé. Ouais.
Ouais, comme tu parlais, Gérald, tantôt, pour l'amour, c'est en action. Puis dans le Proverbe, chapitre 17, au verset 7, il est écrit: L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Hein? Et au verset 19, celui qui aime les querelles aime le péché. Mais si t'aimes ton frère, quand il va avoir de la difficulté, tu vas être comme un frère pour lui. Tu ne seras plus un ami, tu vas être plus, tu vas être un frère. Puis le Seigneur, c'est ça, il s'est donné pour nous autres. Puis il est comme il nous considère comme des frères. Tu sais, on méritait pas ça.
Non.
Le Seigneur, il va jusque-là. Tu sais, c'est vraiment l'amour divin.
Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça.
Peut-être pour compléter la question de notre frère tantôt, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 9 à 12, ça nous montre vraiment que la différence aussi, l'âme et l'esprit, l'esprit, comme tu disais, Gérald, c'est ce qui nous permet de venir en relation avec Dieu et non pas notre âme. Fait que Dieu nous a donné l'esprit qu'à un moment donné, qu'on puisse vraiment, c'est notre esprit qui communique avec Dieu. Et l'âme, comme on disait tantôt, c'est ce qui nous anime. La façon que je comprends ça, si ça peut aider à nous faire comprendre la différence entre âme et esprit, ben, c'est pas pour rien que Dieu nous a donné un esprit pour communiquer avec lui.
C'est ça.
Et l'âme, c'est le souffle de vie qu'il nous donne
Ouais.
en nous. Alors,
Ouais,
je ne veux pas aller plus loin que ça, là, mais si ça peut nous aider à comprendre un peu la différence entre l'âme et l'esprit. Oui, en tout cas, si ça peut nous aider à comprendre.
par l'âme, on communique les uns avec les autres,
Oui,
mais par
exactement.
l'esprit, on communique avec Dieu.
Oui, voilà.
Ouais, puis c'est pour ça que l'homme, tu parlais de l'homme spirituel, puis l'homme charnel, l'homme naturel. C'est-tu de ça que tu parlais? C'était dans 1 Corinthiens 2?
Entretien 2, ben c'est le verset 9 à 12.
9 à 12, OK. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Ouais. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour ça que dans Romains, il dit aussi que si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas non plus.
Oui, c'est ça.
Puis
Oui.
on était mort. C'est comme quand on est au téléphone, puis la ligne est coupée. Ben là, on n'a plus de communication. Puis des fois, sur Zoom, ça fait ça aussi. À un moment donné, il n'y a plus de communication. Mais le spirituel, quand Dieu nous a ressuscités spirituellement, il a fait revivre notre esprit en nous, ben là, on a rentré en contact avec lui. Puis c'est pour ça que quand on dit, eh bien, l'expression qui dit « j'ai vu la lumière », c'est que tout d'un coup, on a compris. Tout d'un coup, quand l'esprit a été ressuscité, là, tout d'un coup, on comprend les choses de Dieu. Puis là, on lit la Bible, puis ça nous parle, puis ça, Dieu communique. Avant ça, ça ne communiquait pas, puis là, tout d'un coup, ça communique.
Oui, parce qu'on prend l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu.
C'est
Oui.
ça, exactement.
Si on regarde le verset 12.
Ouais.
Alors nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Ouais.
Et on voit vraiment que c'est par l'esprit qu'on
Ouais.
peut comprendre que Dieu veut nous faire comprendre, veut
Ça.
nous faire connaître, je peux dire.
Ouais. Puis il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens qui pensent faire une expérience spirituelle, puis c'est juste au niveau de la chair. Ils vont penser qu'ils ont fait une expérience religieuse, puis des non-sauvés peuvent faire la même expérience parce qu'elle était au niveau de la chair. Mais la vraie expérience spirituelle, c'est seulement les sauvés qui peuvent la faire. C'est vraiment de rentrer en communication avec Dieu, puis de jouir de sa présence. Le temps est arrivé, on est dépassé une minute. On va terminer par un mot de prière, mais si vous voulez continuer à jaser, on peut jaser encore, mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ensemble ce soir. Seigneur, tu nous as aimés. Quand on n'était pas aimable, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour les impies. On te remercie, Seigneur, qu'on a pu connaître cet amour-là, puis que maintenant on veut, Seigneur, la vivre pour toi en dévouement. Quel grand privilège on a, Seigneur, de communier avec toi. Oui, on peut s'approcher. Dans l'ancienne alliance, ils ne pouvaient pas s'approcher. Ils devaient il y avait les voiles dans le temple. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Mais maintenant, nous, il n'y a plus de voile. On entre dans le lieu très saint à travers le Seigneur Jésus-Christ, sa chair qui a été meurtrie pour nous. On te remercie, notre Dieu, de ce grand privilège. Donne-nous, Seigneur, de répondre dans la responsabilité à ce grand privilège par une vie de dévouement pour toi, puis de s'approcher pour goûter que le Seigneur est bon. Prends soin de chacun de ceux qui sont connectés ce soir, Seigneur. Bénis chacun. Tu connais tous nos besoins. Tu sais où on est, Seigneur. Puis puisses-tu nous encourager? Et cela d'autant plus qu'on voit s'approcher le jour. Merci encore une fois, au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.